Chapitre 4. Pour distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal, les théologiens mosaïques, bouddhistes, chrétiens et musulmans, avaient recours à l'inspiration divine. Ils voyaient que l'homme, qu'il soit sauvage ou civilisé, illettré ou savant, pervers ou bon et honnête, sait toujours s'il agit bien ou s'il agit mal, et le sait surtout quand il agit mal. Mais ne trouvant pas d'explication à ce fait général, ils y ont vu une inspiration divine. Les philosophes métaphysiciens nous ont parlé à leur tour de conscience, d'impératif mystique, ce qui d'ailleurs n'était qu'un changement de mot. Mais ni les uns ni les autres n'ont su constater ce fait si simple et si frappant que les animaux vivant en société savent aussi distinguer entre le bien et le mal, tout à fait comme l'homme. Et, ce qui est plus, que leurs conceptions sur le bien et le mal sont absolument du même genre que celles de l'homme. Chez les représentants les mieux développés de chaque classe séparée, poissons, insectes, oiseaux, mammifères, elles sont même identiques. Les penseurs du XVIIIe siècle l'avaient bien remarqué, mais on l'a oublié depuis. Et c'est à nous qu'il revient maintenant de faire ressortir toute l'importance de ce fait. Forel, cet observateur inimitable des fourmis, a démontré par une masse d'observations et de faits que lorsqu'une fourmi, qui a bien rempli de miel son jabot, rencontre d'autres fourmis au ventre vide, celle-ci lui demande immédiatement à manger. Et parmi ces petits insectes, c'est un devoir pour la fourmi rassasiée de dégorger le miel afin que les amis qui ont faim puissent s'en rassasier à leur tour. Demander aux fourmis s'il serait bien de refuser la nourriture aux autres fourmis de la même fourmilière quand on a eu sa part. Elles vous répondront par des actes qu'il est impossible de ne pas comprendre que ce serait très mal. Une fourmi aussi égoïste serait traitée plus durement que des ennemis d'une autre espèce. Si cela arrivait pendant un combat entre deux espèces différentes, on abandonnerait la lutte pour s'acharner contre cet égoïste. Ce fait est démontré par des expériences qui ne laissent aucun doute. Ou bien demandez au moineau qui habite votre jardin s'il est bien de ne pas avertir toute la petite société que vous avez jeté quelques miettes de pain dans le jardin afin que tous puissent participer au repas. Demandez-leur si tel friquet a bien agi en volant au nid de son voisin les brins de paille que celui-ci avait ramassés et que le pillard ne veut pas se donner la peine de ramasser lui-même. Et les moineaux vous répondront que c'est très mal, en se jetant tous sur le voleur et en le poursuivant à coups de bec. Demandez encore aux marmottes si c'est bien de refuser l'accès de son magasin souterrain aux autres marmottes de la même colonie, et elles vous répondront que c'est très mal, en faisant toutes sortes de chicanes à l'avare. Demandez enfin à l'homme primitif, au Tchouktch, par exemple, si c'est bien de prendre à manger dans la tente d'un des membres de la tribu en son absence. Et il vous répondra que si l'homme pouvait lui-même se procurer sa nourriture, c'eût été très mal. Mais s'il était fatigué ou dans le besoin, il devait prendre la nourriture là où il la trouvait. Mais que, dans ce cas, il eût bien fait de laisser son bonnet ou son couteau, ou bien même un bout de ficelle avec un nœud, afin que le chasseur absent puisse savoir en rentrant qu'il a eu la visite d'un ami et non d'un maraudeur. Cette précaution lui eût évité les soucis que lui donnerait la présence possible d'un maraudeur aux environs de sa tente. Des milliers de faits semblables pourraient être cités. Des livres entiers pourraient être écrits pour montrer combien les conceptions du bien et du mal sont identiques chez l'homme et chez les animaux. La fourmi, l'oiseau, la marmotte et le tchouktch sauvage n'ont lu ni Kant, ni les saints-pères, ni même Moïse. Et cependant, tous ont la même idée du bien et du mal. Et si vous réfléchissez un moment sur ce qu'il y a au fond de cette idée, vous verrez sur le champ que ce qui est réputé bon chez les fourmis, les marmottes et les moralistes chrétiens ou athées, c'est ce qui est utile pour la préservation de la race, et ce qui est réputé mauvais, c'est ce qui lui est nuisible. Non pas pour l'individu, comme disaient Bentham et Mill, mais bel et bien pour la race entière. L'idée du bien et du mal n'a ainsi rien à voir avec la religion ou la conscience mystérieuse. C'est un besoin naturel de races animales. Et quand les fondateurs des religions, les philosophes et les moralistes, nous parlent d'entités divines ou métaphysiques, ils ne font que ressasser ce que chaque fourmi, chaque moineau pratique dans leur petite société. Est-ce utile à la société? Alors c'est bon. Est-ce nuisible? Alors c'est mauvais. Cette idée peut être très rétrécie chez les animaux inférieurs, ou bien elle s'élargit chez les animaux les plus avancés, mais son essence reste toujours la même. Chez les fourmis, elle ne sort pas de la fourmilière. Toutes les coutumes sociables, toutes les règles de bienséance ne sont applicables qu'aux individus de la même fourmilière. Il faut dégorger la nourriture aux membres de la fourmilière, jamais aux autres. Une fourmilière ne fera pas une seule famille avec une autre fourmilière, à moins de circonstances exceptionnelles, telles que la détresse commune à toutes les deux. De même, les moineaux du Luxembourg, tout en se supportant mutuellement d'une manière frappante, feront une guerre acharnée à un moineau du square Monge qui oserait s'aventurer au Luxembourg. Et le Tchouktch considérera un Tchouktch d'une autre tribu comme un personnage auquel les usages de la tribu ne s'appliquent pas. Il est même permis de lui vendre. Vendre, c'est toujours plus ou moins voler l'acheteur. Sur les deux, il y en a toujours un de dupe. Tandis que ce serait un crime de vendre aux membres de sa tribu. À ceux-ci, on donne sans jamais compter. Et l'homme civilisé, comprenant enfin les rapports intimes, quoique imperceptibles au premier coup d'œil, entre lui et le dernier des Papouas, étendra ses principes de solidarité sur toute l'espèce humaine et même sur les animaux. L'idée s'élargit, mais le fond reste toujours le même. D'autre part, la conception du bien et du mal varie selon le degré d'intelligence ou de connaissance acquise. Elle n'a rien d'immuable. L'homme primitif pouvait trouver très bon, c'est-à-dire très utile à la race, de manger ses vieux parents quand ils devenaient une charge, très lourde au fond pour la communauté. Il pouvait aussi trouver bon, c'est-à-dire toujours utile pour la communauté, de tuer ses enfants nouveau-nés et de n'en garder que deux ou trois par famille, afin que la mère pût les allaiter jusqu'à l'âge de 3 ans et leur prodiguer sa tendresse. Aujourd'hui, les idées ont changé, mais les moyens de subsistance ne sont plus ce qu'ils étaient dans l'âge de pierre. L'homme civilisé n'est pas dans la position de la famille sauvage qui avait à choisir entre deux maux, ou bien manger les vieux parents, ou bien se nourrir tous insuffisamment et bientôt se trouver réduit à ne plus pouvoir nourrir ni les vieux parents, ni la jeune famille. Il faut bien se transporter dans ces âges que nous pouvons à peine évoquer dans notre esprit pour comprendre que, dans les circonstances d'alors, l'homme demi-sauvage pouvait raisonner assez juste. Les raisonnements peuvent changer. L'appréciation de ce qui est utile ou nuisible à la race change, mais le fond reste immuable. Et si l'on voulait mettre toute cette philosophie du règne animal en une seule phrase, on verrait que fourmis, oiseaux, marmottes et hommes sont d'accord sur un point. Les chrétiens disaient « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. » Et ils ajoutaient « Sinon tu seras expédié dans l'enfer. » La moralité qui se dégage de l'observation de tout l'ensemble du règne animal, supérieure de beaucoup à la précédente, peut se résumer ainsi. Fais aux autres ce que tu voudrais qu'ils te fassent dans les mêmes circonstances. Et elle ajoute. Remarque bien que ce n'est qu'un conseil. Mais ce conseil est le fruit d'une longue expérience de la vie des animaux en société et chez l'immense masse des animaux vivant en société, l'homme y compris. Agir selon ce principe a passé à l'état d'habitude. Sans cela, d'ailleurs, aucune société ne pourrait exister. Aucune ne pourrait vaincre les obstacles naturels contre lesquels elle a lutté. Ce principe si simple est-il bien ce qui se dégage de l'observation des animaux sociables et des sociétés humaines? Est-il applicable? Et comment ce principe passe-t-il à l'état d'habitude et se développe toujours? C'est ce que nous allons voir maintenant.